Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9. Et oui, notre générique qui nous accompagne depuis 3 saisons maintenant. Il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Et Vendredi Théâtre, je suis là avec une partie de l'équipe. Je suis là avec Tito Livio. Bonjour Tito.
Bonjour.
Et je suis là avec Christopher.
Bonjour.
Bonjour Christopher. Et nous allons parler tout de suite d'un premier plateau avec un spectacle qui se déroule au Théâtre d'Eau. Le spectacle s'appelle Ciseaux. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Isabelle Eude. Bonjour.
Bonjour.
Je n'ai pas écorché votre nom.
Non, pas du tout.
Ça va, parce que c'est généralement ma spécialité d'écorcher les noms des invités. Alors, Ciseaux, il s'agit donc d'un spectacle qui est au Domaine d'Eau et qui nous parle d'un écrivain américain que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Raymond Carver.
Oui, ça, c'est un spectacle qui est inspiré de sa vie et en premier lieu qui est un spectacle qui a été écrit avec un montage... construit à partir du roman de Stéphane Michaka, du même nom, Ciseaux. Et
Raymond Carver, on va peut-être resituer, c'est donc un écrivain américain qui a commencé à être connu dans les années 70. Je crois que le premier texte, ou l'un des tout premiers textes publiés, ça doit être en 76, si je ne me trompe.
Oui, c'est cela. Il est né en 1938 et décédé en 1988, à 50 ans, donc très tôt. Il a, dans les 10 dernières années de sa vie, réussi à publier plus, on peut dire, ou, excusez-moi, à écrire d'une manière différente que les que précédemment, parce qu'il avait arrêté de boire, par exemple.
Oui, il avait eu un gros problème avec la boisson qu'il a poursuivi pratiquement toute sa vie. Hein. On n'a pas précisé que c'est essentiellement un nouvelliste. C'est aussi un poète, mais c'est essentiellement un nouvelliste.
C'est essentiellement un nouvelliste. Effectivement, il n'a pas écrit de roman, bien qu'il ait voulu le faire, mais je crois qu'il en a parlé lui-même aussi. En tout cas, il en parle où le personnage du spectacle en parle de cette manière. Il dit que peut-être à cause de l'alcool, à cause de ses préoccupations familiales, il n'a jamais eu le temps devant lui et à l'intérieur de lui sans doute aussi pour se lancer dans l'écriture d'un roman et qui s'est donc cantonné à l'écriture de nouvelles qui sont évidemment des morceaux d'écriture plus petits mais non pas moins élaborés qu'un roman dans la finesse de ce qui est exprimé.
Alors moi, ce qui me posait comme question quand j'ai vu le libellé du spectacle, c'est pourquoi le titre « Ciseaux ».
Alors, le titre « Ciseaux » a une histoire. Le romancier du roman « Ciseaux », Stéphane Michaka, est un ami et un proche collaborateur de la metteur en scène Marion Coutarel. Et il voulait à l'origine intituler le roman « col bleu, col blanc, en référence au milieu d'origine de Raymond Carver, mmh. qui est plutôt issu d'un milieu ouvrier, et celui de Gordon Leash, qui est ici dans la pièce, c'est son éditeur, qui prend le nom de Douglas dans la pièce, et qui lui représente... le milieu de l'édition et New York et la ville. Donc c'est cette différence entre les deux milieux qui faisait penser à Stéphane Michaka de donner comme titre « Col bleu, col blanc mm-hmm. ». Et c'est Marion qui lui a suggéré de l'appeler « Ciseaux ». Parce que dans son roman, Stéphane Michaka a inventé que Douglas se fait appeler « Ciseaux » dans le milieu parce que son activité consiste, entre autres, à couper, tout en améliorant, les nouvelles qui lui sont soumises.
Et là, pour le cas de Carver, c'est vraiment, il s'agit d'une amputation, puisque les textes qu'on a découverts à partir des années 70-80, qui nous ont été donnés au public, étaient quand même pas mal amputés par Gordon Leash.
Oui, effectivement, il se permettait de couper parfois 70% d'une nouvelle. Donc, il avait par contre un don particulier pour créer une concision. Donc, les coupes peuvent en partie être justifiées. Et en partie, elles ont immensément blessé Carver et lui ont enlevé aussi un caractère d'écriture. Par contre, maintenant, aujourd'hui, on peut avoir accès aux deux versions,
oui,
puisqu'elles ont été publiées et traduites en français en 2010 et 2011, oui. Aux éditions de l'Olivier, il me semble.
Oui, c'est aux éditions de l'Olivier qui ont donné l'original, en fait. Et on peut comparer les deux versions, ce qui n'est pas inintéressant.
Voilà, on peut donc évaluer si ces coupes étaient justifiées ou non.
Alors, il y a deux personnes qui ont vu le spectacle. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Tito, toi, tu as vu le spectacle avec Christopher. Tito.
Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai deux petites critiques à faire. Je trouve que au départ on comprend le propos et puis après on se perd un peu, hein, avant de le retrouver vers la fin. Et en tant que public, j'étais un petit peu décontenancé par le déroulement de l'action. Il y a une autre, deuxième critique, c'est au niveau du décor. Il y a une très belle porte qui se trouve au milieu. Il y a le plateau est disposé avec des petits espaces comme ça, un peu onirique. Il y a un jardin, un petit salon, un coin musique, etc. Et cette porte au milieu, je trouve que elle a un sens dans le récit. Donc, mais il faudrait la mettre ailleurs parce que du coup, ça casse. Ce côté qui est donné par les autres endroits, par les autres espaces, qui sont alors bizarrement plus oniriques que cette porte qui est elle-même supposée représenter quelque chose d'extrêmement onirique. Et du coup, on a l'impression que les gens se déplacent vraiment entre espaces coupés là, par cette porte, alors que... il y aurait plus de fluidité, vous voyez. Peut-être qu'à ce moment-là, ce qui m'est arrivé ne serait pas passé, c'est-à-dire un moment où j'ai un peu perdu le fil de ce qui est raconté au récit pour le retrouver à la fin. Cela étant dit, c'est vrai que c'est une adaptation d'un roman, ce n'est pas une adaptation de l'œuvre de Carver. Et donc, il faut respecter, je ne l'ai pas lu le roman, donc il faut respecter certainement le récit lui-même d'où c'est tiré. Et peut-être qu'il est construit comme ça exactement. Et donc là, je ne peux rien dire. Mais le sentiment que j'ai eu, c'est que j'aurais préféré qu'on reste dans cette déambulation comme ça, entre petits espaces comme ça, qui sont un peu dans la pénombre comme ça. Mais c'est mon opinion. Hein. Après, évidemment, le personnage, il y a des moments de grâce, notamment, surtout, alors pour moi, personnellement, mais c'est un avis tout à fait personnel,
c'est ce qu'on demande, hein, Tito.
Par le personnage du censeur. Et j'adore quand il est dans sa petite dans sa chaise d'arbitre de tennis, tout en haut, et notamment à la fin quand il est en train de couper le texte avec pas mal d'arrogance d'ailleurs, en disant mais non, mais ça va pas, n'importe quoi. Et ça fait un très beau contraste avec tout le reste. Il y a des personnages, les femmes sont très fragiles, lui aussi a sa fragilité, le personnage de Raymond est quelqu'un de très blessé, bon, donc, mais c'est évident, hein, parce que c'est Carver, donc ça ne peut pas être un type qui va et qui fonce et qui dit je sais très bien ce que je fais, non, c'est, évidemment ça ne peut pas être ça, mais ce personnage qui lui il est arrogant, et là il y a un beau contraste là, entre les deux. Et pour moi, ça donne les meilleurs moments. Les meilleurs moments sont là, sont quand il y a ce personnage qui casse ce côté, justement, ce truc où les gens, on a l'impression que tout le monde marche sur des œufs. Voyez, parce que ils sont comme ça. Hein, ce sont des gens qui marchent sur des œufs.
Oui, chaque action peut avoir des conséquences dont on ne connaît pas l'issue. Et peut-être c'est ce n'est pas une adaptation de nouvelles de Carver. Mmh. C'est l'écriture de Stéphane Michaka qui est adaptée là. Et son roman, il est construit avec, on pourrait appeler ça des chapitres ou des parties qui sont chacune le point de vue d'un des personnages. Donc il y en a quatre. Raymond Carver qui devient Raymond. Gordon Leash qui est l'éditeur, censeur comme vous dites, mais pas seulement, qui devient aussi un interlocuteur quant à l'écriture. Et sur la fin de sa... Enfin, Raymond Carver avait besoin aussi de ce dialogue, bien que là, il est devenu, ou il était dès le départ, assez violent par ses coupes. Donc, Gordon Leash, l'éditeur, devient dans le roman Douglas, la première femme de Raymond Carver, qui s'appelle Marianne, et ici aussi Marianne, et la seconde femme, Tess Gallagher, qui est une poétesse, devient Joanne. Et effectivement, le montage qu'a choisi de faire Marion Coutarel ne suit pas obligatoirement une chronologie. Et c'est pourquoi, mais comme pour nous tous, les réminiscences de ce qui s'est... les choses qui se sont produites et même à l'intérieur de l'écriture de Carver, en évoluant dans son existence, ce qui s'est passé dans son passé revient forcément dans ses écrits au présent. Donc, dans le montage, il y a encore beaucoup de choses du passé qui vient au moment, dans un moment non chronologique, ouais, qui est donc représenté. Et peut-être ça peut perdre le spectateur. On a d'ailleurs, pour la seconde, déjà remodifié un peu le montage.
Oui, parce
montage.
Que Tito, tu as vu la première, toi.
Mmh. Voilà.
Donc, vous avez eu un problème de micro aussi. À un moment donné, on se demande pourquoi les gens... Bon, après, on m'a expliqué, ouais. Je dis, bah, ça arrive, hein, ce genre de choses.
Oui, parce que justement, le roman est construit, donc on suit la vie de Raymond Carver, et à l'intérieur du roman sont... quatre nouvelles. Et ces quatre nouvelles, on a choisi de les représenter aussi. Et c'est ces quatre nouvelles qui se passent en rapport avec cette porte que vous voyez au milieu du plateau, qui peut représenter l'espace fictionnel, en fait, qui est aussi relié à tous ces objets qui sont alentour, qui sont parfois... On va chercher des objets pour servir la fiction, des objets qui se trouvent... alentour. Et c'est ce glissement entre la fiction et la réalité de la vie qui fait que, effectivement, les choses ne sont pas forcément chronologiques dans le montage.
Christopher, toi aussi, tu as vu le spectacle, tu as vu la première aussi.
Oui, j'étais avec Tito. J'ai l'impression de retrouver, pendant le spectacle, deux parties. Une partie. Plus axé sur la relation entre Carver et son éditeur, une relation assez particulière. On a l'impression que Carver a besoin de son éditeur et en même temps ne supporte pas les coupes qui lui sont faites, mais qui n'a pas le caractère pour les refuser.
Le caractère ou peut-être... disons, c'est une personne qui a galéré dans sa vie. Il a fait beaucoup de jobs. C'est sa femme qui subvenait aux besoins du couple, de la vie du foyer, parce qu'ils ont eu des enfants très jeunes. Et lui faisait des jobs le soir. Et puis, par la force... Non, je ne sais pas si c'est par la force des choses ou comment on peut appeler ça. Il s'est mis aussi à boire. Et du coup... le fait d'avoir un éditeur, c'est quand même la chose la plus importante. Une des choses les plus importantes pour un auteur, c'est d'être publié. Et c'est le cas aussi pour beaucoup de corps de métier. On donne l'occasion d'être publié, alors on fait des concessions.
Bien sûr. Mais on sent que ça le déchire quand même.
Il parlait d'amputation, hein, lui, pour les coupures.
Oui, parce qu'elles sont brutales. Et il arrivait même à Gordon Leash de terminer... les nouvelles dans un sens opposé à celui de Raymond Carver.
Ah, ça, c'est grave. Parce c'est que grave, oui. Une nouvelle et sa chute, ça va de soi. C'est pas un roman, une nouvelle. Justement, c'est pas un petit roman, c'est une nouvelle, c'est une forme en soi, et la chute en fait partie.
Oui.
Et s'il change la chute, il a changé la nouvelle. Hein. Là, c'est plus la même. Hein. C'est autre chose. Hein.
Oui.
C'est horrible. Hein.
Oui. C'est ce qu'il dit à un moment donné, le personnage de Ray. Si tu le coupes à ce point, la nouvelle, elle n'est plus de moi.
Bah oui, c'est Mona Lisa qui se met à pleurer. Hein. Ça va même,
Oui, et l'éditeur se met à penser que c'est lui qui écrit les nouvelles. Une partie de lui est persuadée de cela, ouais.
Mais moi, ça me rappelle un tout petit peu dans les rapports auteur-éditeur, un éditeur français qui avait un petit peu aussi cette prédisposition à intervenir sur les textes, c'était Gallimard. Gallimard en France, il était connu. D'ailleurs, il y a l'anecdote célèbre avec Sartre, avec La Nausée. C'est l'éditeur Gallimard qui avait imposé le titre La Nausée, qui au départ devait s'appeler Mélancolia, et qui avait fait quelques coupures. Donc c'est un problème redondant entre l'auteur et son éditeur.
Oui, certainement, mais pour la plupart des auteurs, on ne le sait pas.
Mm-hmm.
Là, en l'occurrence, avec Carver, en plus, on peut comparer les deux versions aujourd'hui.
Ah, mais c'est tout à fait passionnant. Moi, je n'ai lu que la première version. Je vais lire la deuxième là, prochainement pour faire justement le rapport à ce qui a été coupé, ce qui a été enlevé, etc.
Mais il avait peut-être besoin, juste pour terminer, d'un Pygmalion quand même. Voilà, c'est oui, très bête ce que je viens de dire.
Non.
Mais je pense que...
C'est une évidence.
Oui, on a besoin d'un interlocuteur et de quelqu'un qui nous porte. Oui.
On va rappeler donc que le spectacle s'appelle Ciseaux, c'est au Théâtre d'Eau. Est-ce que tu as les dates, Tito, sous les yeux? Ça se joue jusqu'à quand?
Jusqu'à ce soir, en fait, à 20h30.
À 20h30 ce soir. Et ça va être repris après?
En septembre, nous allons jouer à Moggio, au Théâtre... Bassager. Je ne suis pas de Montpellier, alors je ne sais pas le...
Je ne connais pas ce théâtre.
Je ne connais pas non plus.
Je ne connais pas. Voilà, en tout cas, allez-y, si vous aimez Raymond Carver, si vous voulez découvrir cet auteur, si vous ne le connaissez pas. Et puis en même temps, le roman dont est tirée la pièce. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau. On va faire une petite pause musicale, tiens, avec un Chet Baker. et la trompette de Chet Baker, la merveilleuse trompette de Chet Baker qui nous accompagne pour ce plateau, pour cette fin de plateau. Je vous rappelle que vous êtes sur Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de théâtre sur Divergence FM. On va parler maintenant d'un autre spectacle qui se déroule au théâtre Pierre Tabar. Grazia nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Et tu as vu avec moi un spectacle qui s'appelle Et les planches m'ont brûlé, sous-titré Pourquoi le théâtre ? Et j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Merlot. Bonjour.
Bonjour.
Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ce pourquoi le théâtre ?
Parce que parfois je me pose la question, quelle pièce monter, pourquoi jouer ça ou pas ? Voilà, pourquoi on en fait, pourquoi on y va ? Ou on peut voir des spectacles où on peut se demander, est-ce que vraiment c'est intéressant de le voir ? Et puis par rapport au cinéma, qui concurrence beaucoup le théâtre, etc. Voilà, quelle est la place du théâtre ? Donc j'avais envie de me poser cette question, personnellement, et d'essayer de trouver les réponses... un peu dans les auteurs, regarder ce que disent les auteurs, notamment dans les pièces, ce que dit Tchekhov sur le théâtre, à travers ses personnages, ce que peut dire Shakespeare, et voilà, essayer de répondre à cette question.
Ah, moi j'ai retrouvé un petit peu, il y a des extraits donc, de Musset aussi, de Rostand avec le Cyrano, il y a aussi plutôt des théoriciens du théâtre comme Jouvet, comme Peter Brook qui sont cités, Copeau je crois aussi. Jacques Copeau
Oui, il était prévu et puis finalement Jouvet l'a un peu supplanté. mais le théâtre, le spectacle va évoluer, c'est-à-dire que j'ai créé une structure, je sais comment, voilà, je vois maintenant où je peux aller et des textes seront remplacés peut-être par d'autres qui seront plus judicieux avec toujours le même thème.
On sent que vous avez aussi la volonté de vous faire plaisir parce qu'il y a quand même des gros morceaux, des grandes tirades.
Parce qu'à un moment, la réponse du théâtre, à un moment, c'est pourquoi on en fait, c'est pour le plaisir.
Oui.
C'est à un moment, la réponse pour l'acteur, parfois, c'est de se dire, mais j'aime le faire, point. Arrête de chercher plus loin.
Grazia. Mais
justement, moi, le titre de la pièce, Pourquoi le théâtre ? Je suis allée voir votre pièce pas du tout dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que je m'attendais à une réflexion sur la place du théâtre dans la société, l'engagement du comédien, vous voyez, le rôle politique. Et bon, finalement, c'était pas du tout ça. Et c'est peut-être le titre qui m'a induit un peu en erreur. Pourquoi le théâtre ? Et puis finalement, je me suis rendu compte que non, que c'était votre réflexion à vous en tant que comédien. Et je me suis posé aussi la question, pourquoi fait-il du théâtre ? Peut-être, pourquoi les comédiens font du théâtre ? Peut-être pour échapper à la comédie de la vie, celle que chacun de nous est obligé de jouer tous les jours dans cette société du spectacle qui devient de plus en plus virtuelle. Et alors je me suis dit, peut-être je vais lui poser la question suivante, pourquoi vous avez choisi d'être comédien, Fabrice Merlot ?
Ah ben moi, la réponse est simple, c'est un besoin de liberté, en fait.
Voilà.
C'est un besoin de... Jouvet en parle, il dit le sentiment de n'avoir jamais été soi-même et qu'enfin, peut-être, on va l'être. Je crois que c'est ce qui se passe à 20 ans ou 19 ans, tout d'un coup, on se sent dans une boîte, on va dans un cours, et puis soudain, on sent, il y a quelque chose là. Je sens que c'est un espace où, je sais pas, ça me parle. Même si on est mauvais, on sent qu'il y a un espace où il va peut-être se passer une transformation de soi. Et en ce qui me concerne, oui, je ne suis pas la même personne qu'il y a 20 ans. Et c'est le théâtre qui a changé beaucoup de choses.
C'est un espace, ça reste un espace de liberté pour vous.
Ah bah pour moi, c'est l'espace de liberté absolue, puisque pour moi, les règles du théâtre sont simples. Hein. On fait tout ce qu'on veut, sauf qu'on se fait pas mal. On fait pas mal aux partenaires et on ne casse pas le matériel, sauf si on a une grosse production. Mais sinon... On fait ce qu'on veut. On peut être odieux, pitoyable, merveilleux.
Et le public,
on peut tout faire.
Tout ça ? Et le public, les gens, les spectateurs ?
Ah bah eux aussi, on leur fait pas mal. Par contre, on peut les percuter psychologiquement le plus fort possible.
Ah voilà, donc il y a quand même un rôle quelque part à jouer vis-à-vis des gens qui vous regardent.
Ah bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Mais déjà, c'est pour moi une des réponses du théâtre, c'est que bien sûr, on joue des histoires et on joue la société. C'est les auteurs qui écrivent des pièces. Et qui doivent nous apporter des choses qui parlent de la société. Donc déjà, représenter ces histoires ça percute le public. Mais au-delà de ça, il y a le simple fait que des gens sur scène jouent des histoires, alors que ce ne sont pas leurs histoires, ouais. S'amusent à le faire, traversent des émotions, des sentiments, des actions. C'est aussi libérateur de voir quelqu'un, comme quand on voit, je sais pas, un chanteur d'opéra, tout d'un coup, cette voix, c'est juste « waouh, ouais, c'est incroyable, ouais. Une voix pareille mmh. ». Ben, je pense que c'est pareil dans la performance d'acteur. À un moment, juste une performance d'acteur en soi, ça raconte quelque chose sur l'être humain, je crois.
Oui, ouais, juste un regard, des fois, juste, oui, absolument, ouais, vous avez raison.
Alors, il y a l'acteur, mais il y a aussi l'auteur, et puis il y a le metteur en scène. Là, vous êtes un petit peu, vous, pour le spectacle, vous êtes à la fois metteur en scène et comédien.
Oui, et alors, par rapport à ce que je voudrais dire sur le théâtre, en fait, je suis contraint parce que je ne m'autorise pas vraiment à écrire. Il y a quelques phrases de moi dans le spectacle, une introduction, mais je ne m'autorise pas à écrire. Ça viendra peut-être un jour. Donc, je me sers des auteurs. Mais donc, je suis contraint par ce qu'ils disent. D'accord. Donc, je cherche, parfois, je me dis, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait cette idée qui passe. Et parfois, je ne la trouve pas chez les auteurs, parce que je n'ai pas assez de culture, ou je n'ai pas assez lu de choses. Donc c'est pour ça que j'ai encore un travail de recherche à faire, parce qu'il y a certaines idées que j'aimerais peut-être exprimer sur le théâtre, que je n'ai pas forcément trouvées dans Tchekhov. Voilà. Ouais.
C'est un spectacle qui va évoluer.
Ah oui, il a déjà évolué, vous avez vu, c'était une création, la première, vous avez vu la première. La deuxième, j'ai déjà changé des choses, réajusté des choses, clarifié des choses.
Et le soir, on y était, il y avait toute une classe de... Je crois que c'était des collégiens ou des lycéens.
Non, c'était des premières qui... c'était une classe de théâtre, en fait. Hein. Ils avaient été briefés par les profs, à mon avis. Parce que
ils étaient très, très attentifs.
J'étais vraiment surprise par rapport à l'expérience qu'on avait eue quand vous avez joué le Baudelaire.
C'est vrai qu'on vous avait reçu l'année dernière pour le Baudelaire. Non, c'est vrai que là, le public donc de lycéens était très, très, très attentif. Vous avez eu des réactions après des lycéens ou ils sont venus vous voir?
Non, j'étais parti quand j'étais après ma sortie des coulisses.
Et en fait, vous êtes basé où? À Paris, non?
À Paris, oui.
À Paris, hein. Et là, vous avez une école de théâtre ou...
Je donne des cours, moi.
Vous donnez des cours, oui. Hein, il me semble. J'ai vu sur Internet, ouais, oui. Vous donnez des cours à des comédiens, à des jeunes.
Oui, pour des stages, plutôt pour le cinéma, en fait. Pour
d'accord.
Des stages cinéma.
De cinéma. Ah, vous allez vous essayer au cinéma aussi, vous l'avez déjà fait ou...
Ouais, j'ai fait un tout petit peu de télé, mais c'est pas... Enfin, j'adorerais, hein. C'est un autre réseau, c'est autre chose, c'est un travail.
Non, mais le théâtre, c'était bien, c'est... Voilà.
D'ailleurs, je vois qu'il y a un autre spectacle qui va se jouer, ouais, à Pierre Tabar sur le théâtre anglophone dont vous avez fait la mise en scène.
Oui, c'est un spectacle sur Margaret, qui est un personnage de Shakespeare qui n'a pas de pièce à son nom, mais c'est un personnage qui apparaît dans trois pièces. Pendant la guerre des Deux Roses. Ah, et donc, on a fait un montage. Et en fait, c'est une princesse, c'est Margaret d'Anjou, qui vient d'Anjou, et qui a été mariée à un roi qui n'avait pas la stature pour l'être, et qui a pris un peu le pouvoir.
Et ça sera un spectacle en anglais?
C'est en anglais, oui.
Et donc, ça sera le dimanche, voilà. Une seule représentation.
Ouais. Voilà. Moi, je joue à 17h, et Margaret, c'est à 19h.
À 19h.
Et d'ailleurs, dans votre spectacle, il est fortement question aussi de Shakespeare.
Oui, parce que à un moment, le théâtre shakespearien, c'est incontournable sur la manière de raconter l'être humain, la manière de jouer aussi, le rapport au public. Et puis, il y a des textes que je n'ai pas mis, que j'aimerais mettre plus tard. Shakespeare parle de l'art du comédien. Mmh. Hamlet, dans Hamlet, explique au comédien comment il faut jouer.
Mmh, absolument.
Il parle du naturel, etc. Et donc, il parle du théâtre. Et il dit, le monde est un théâtre, etc. Et donc, voilà.
Et quand vous parlez du théâtre élisabétain et shakespearien, c'est un texte de qui?
C'est un texte de Stefan Zweig, dans La confusion des sentiments.
Ah oui, c'est vrai, bien sûr.
Le personnage principal, il y a deux personnages. Un des personnages est un professeur de fac, et qui à un moment explique Shakespeare aux élèves. Et moi, j'ai lu ce texte avant de lire Shakespeare, il y a 20 ans. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, je dois lire Shakespeare. Parce que la manière dont il parlait de Shakespeare, je trouvais ça... Vraiment, le texte a un souffle. Donc je me suis dit, je vais l'interpréter un jour sur scène.
Oui, moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais il y a quelque chose là qui se passe et je n'avais pas reconnu le Stefan Zweig.
Mais ce n'est pas un texte de théâtre.
Non, non, ce n'est pas un texte de théâtre.
En tout cas, c'est très intéressant. Pour moi, c'est dense, parce que je n'ai pas une grande culture non plus théâtrale. Donc, mais c'est très intéressant. C'était très intéressant. J'aimerais bien le revoir une deuxième fois. Si vous permettez, je reviendrai.
Venez demain, il aura beaucoup bougé déjà. Ouais. Ça sera la troisième représentation. Elle sera
ou peut-être dimanche.
Ou dimanche, oui. Ouais,
pour voir un peu.
Est-ce que je peux vous demander un exercice difficile que je demande régulièrement à nos invités, c'est de nous donner un petit extrait, si vous voulez bien.
Oui, oui.
Je sais que ce n'est pas facile. Ouais, c'est pas la même chose, une scène et un micro, ce n'est pas le même espace.
Alors parlons de Shakespeare, justement. C'est le texte de Stefan Zweig où à un moment, il décrit le théâtre shakespearien. Et il dit, au bord de la Tamise, sur les pilotis d'un sol bourbeux, humide et sans valeur, se dresse le rude édifice de bois avec sa grossière tour hexagonale. Le théâtre du globe, sur la scène duquel paraît Shakespeare, le maître. Comme un étrange vaisseau rejeté par la mer, avec son étendard rouge de pirate, flottant au mât le plus haut, il se dresse, là, solidement ancré dans le fond bourbeux. Au parterre s'agite bruyamment, comme dans un port, le bas peuple. Du haut des balcons, sourit et bavarde frivolement le beau monde. Avec impatience, il demande qu'on commence. Il tape des pieds, font du tapage, frappe bruyamment du pommeau de l'épée contre les planches jusqu'à ce qu'enfin, pour la première fois, la scène basse s'éclaire à la lueur de quelques bougies placées devant elle et que des comédiens costumés avec négligence s'avancent pour jouer une comédie qui semble improvisée. Voilà, et puis après j'enchaîne des morceaux de Shakespeare, notamment ces quatre... je ne sais plus dans quoi c'est d'ailleurs, où il dit « Le monde est un théâtre ». Et tous, hommes et femmes, n'y sont que des acteurs. Ils ont leurs entrées, leurs sorties, et chacun dans sa vie a plusieurs rôles à jouer. Et il développe cette idée de la scène est un théâtre, qui au début ne me parlait pas du tout. Mm-hmm. Le monde est un théâtre, mais pourquoi il dit ça, le monde est un théâtre ? Et maintenant je vois qu'il a vraiment raison. Qu'on joue des rôles en permanence, qu'on change de rôle à certains moments, ou qu'on n'arrive pas à en changer. Quelqu'un qui est timide, qui dit « mais change, arrête, tu peux changer. » T'es pas... Et non, la personne reste identifiée à ce rôle, alors qu'elle en a plein en lui. Et c'est ce que dit Jouvet aussi.
Oui, oui, oui.
C'est qu'on a plein de rôles en nous et que le théâtre permet de les exprimer et en fait de grandir et de se rendre compte qu'on n'est pas uniquement ça, qu'on peut être autre chose.
Et d'ailleurs, je repensais à Stefan Zweig et puis à Shakespeare. C'est vrai que Stefan Zweig aimait beaucoup le théâtre élisabéthain. Il avait même fait, d'ailleurs, je crois, une adaptation d'un texte de Ben Jonson, Volpone. C'était une adaptation de Stefan Zweig et et de Jules Romain, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps à la télévision avec Louis Jouvet dans le rôle du valet. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le théâtre élisabéthain. On va rappeler donc que le spectacle s'appelle « Et les planches m'ont brûlé, pourquoi le théâtre ?» Pourquoi le théâtre, c'est le sous-titre.
En fait, c'était au départ le titre, parce que c'était le projet. Titre un peu trop pédagogique à mon goût quand même. Et à un moment, en écrivant, en réfléchissant, et les planches m'ont brûlé, je trouvais ça plus intéressant.
C'est vrai, c'est mieux.
C'est voilà. Mieux, ouais.
Voilà.
Alors, donc, c'est donc au théâtre Pierre Tabar, c'est donc jusqu'à dimanche. Ce soir, c'est à 19h, demain, c'est à 19h, et dimanche, c'est à 17h.
C'est ça.
Est-ce que c'est un spectacle qui va tourner après, que vous allez faire dans d'autres lieux ?
Ah, si je fais le travail pour, oui, mais si je ne le fais pas, il ne se passera rien.
Voilà. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau de Vendredi Théâtre. On va se quitter avec Édith Piaf. Tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas écouté Édith Piaf.
Et mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux bravo, bravo. Tu croques des assiettes assis sur un jet d'eau. Tu ronges des paillettes tordues dans un tonneau. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo. Aux grandes mains s'accroche à ses oreilles, lui vole ses chagrins et vide ses bouteilles. Son cœur qui se dévisse ne peut les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Ta vie est un reproche qui claque dans ton dos. Ton fils te fait les poches et toi tu fais l'idiot. Ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Le cirque est déserté, le rire est inutile. Mon clown est enfermé dans un certain asile. Succès de camisole, bravo de cabanon. Des mains devenues folles lui battent leur chanson. Je suis roi et je règne, bravo, bravo. J'ai des rires qui saignent, bravo, bravo. Venez que l'on m'acclame, j'ai fait mon numéro. Tout en jetant ma femme du haut du chapiteau.
Estás escuchando Divergencia FM 93.9.
Mon frère, c'était un assassin qui travaillait avec la lame. Et chaque soir, après le turbin, il faisait travailler sa femme. Mon père avait un bar tabac, fréquenté par de drôles de têtes. Ils vivaient tous dans l'aléa et papa plaçait leur galette. J'étais alors très jeune. J'ai senti que leur bas de laine filait le mauvais coton. J'ai rompu avec ma famille. Et je suis parti un soir, comme ça, à la rue.
Divergence FM, le 93.9. Et oui, un petit jingle avec la voix de Gabin qui nous donne des textes de Léo Ferré sur une musique de Miles Davis. Vendredi théâtre, nous abordons le troisième plateau. Nous allons parler d'une pièce, d'un spectacle qui s'appelle Le Premier Homme. C'est au Carré Rondelet. Tito et Christopher sont revenus sur le plateau parce que c'est eux qui ont vu le spectacle hier. Et j'ai le plaisir de recevoir monsieur Jean-Paul Chintu. Bonjour.
Bonjour.
Je n'ai pas écorché votre nom.
Non, très bien.
Et monsieur Avner Pérez, qui est le directeur du théâtre Carré Rondelet.
Bonjour.
Alors, le dernier Camus, c'est en fait Le Premier Homme. Il s'agit d'un texte de Camus inachevé qui a été publié uniquement en 1994, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait. C'est un texte qu'il a écrit, je pense, les 10 dernières années de sa vie. En tout cas, il a dû commencer les premières pages au début des années 50. Et c'était une écriture très secrète. Très peu de gens étaient au courant de l'écriture de ce roman, de cette autobiographie. Naturellement, entre-temps, il a écrit beaucoup d'autres choses, mais j'ai l'impression que l'écriture de ce roman-là lui tenait particulièrement à cœur, et justement, il en parlait fort peu. Je pense qu'il devait avoir 3 ou 4 personnes dans la confidence. C'est très très proche. Le reste, puisqu'il y a une anecdote comme ça qui court, il a rencontré quelqu'un 3 mois avant sa mort, un ami relativement proche quand même, qui lui demandait ce qu'il faisait actuellement, qu'est-ce qu'il écrivait. Et Camus lui aurait répondu « Oh non, non, j'écris rien du tout, je me sens très sec. » Et quand on lit Le Premier Homme, on pense que cette sécheresse, entre guillemets, était une protection. Et parce qu'il y mettait beaucoup de lui-même.
Alors c'est un manuscrit, si je ne me trompe, qu'on a retrouvé dans une sacoche Parce que je rappelle que Camus est mort dans un accident de voiture en 1960 et on l'a retrouvé dans la voiture, dans une sacoche. Et très peu de monde était au courant en fait, de ce
Donc, c'est ce que je vous disais. Voilà. Donc, l'accident a lieu début janvier à Villeblevin, qui est une petite commune aux confins de l'Île-de-France. Et au pied de ses jambes, à ses pieds, on trouve la sacoche. Et à l'intérieur, je crois qu'il y avait 300 feuillets du premier homme. Et on peut imaginer que les derniers mots, le dernier mot de ce texte qu'on a, c'est le mot « révolte ». Et on peut imaginer que le mot « révolte », il l'a écrit le matin de sa mort en partant, puisque il remontait du Midi avec Michel Gallimard et sa femme et leur fille. Et je crois qu'il s'est arrêté à Tournu pour la nuit. Et je pense que le matin, il a dû continuer l'écriture du premier homme jusqu'à cette séquence qui s'appelle « Obscur à soi-même », qui est la dernière séquence du manuscrit où le dernier mot est « révolte ».
Et je rappelle que Camus avait écrit « L'homme révolté ».
L'homme révolté. Et là, le dernier mot, mais l'avant-dernier est « sans révolte ». C'est ça qui est extraordinaire.
Ah voilà.
Oui, c'est « sans révolte ». Le dernier mot est « révolte », mais l'avant-dernier est « sans ».
Alors, dans cet écrit autobiographique, il parle beaucoup, il parle pratiquement que de ça, de l'Algérie.
Il parle de son enfance, de son adolescence. Et puis, en même temps, il parle de l'Algérie au moment où il écrivait le texte. C'est-à-dire, sous ses fenêtres, il y a la guerre d'Algérie qui a commencé, comme vous le savez, en 1954. Et dans les années qui ont suivi, 1955-1956, il y avait des attentats successifs perpétrés par le FLN et la répression de l'armée française. Donc c'était l'Algérie était un peu un état en insurrection. Et donc il y a dans l'écriture du premier homme l'écho de cette guerre-là qui n'aborde pas frontalement dans le texte, mais qui est toujours, j'allais dire presque en fond sonore. Par contre, il aborde d'une certaine manière la guerre, les deux guerres, et plus précisément la guerre de 14. Et il est le premier, je crois, puisque ça, on peut imaginer qu'il a écrit ça en 58-57, où il souligne l'apport très très important de toute cette population qu'on disait des colonies, des indigènes, qui sont venus défendre le sol français.
Absolument.
Alors maintenant, on le sait, puisqu'il y a eu des films justement indigènes, tout ça, maintenant c'est rentré un peu dans la conscience, tout le monde le sait ça. Mais en 58, je crois qu'il était le seul à en parler, et c'est inscrit dans le premier homme, où en fait ces gens-là, dont son père, sont venus de pays lointains, à la fois des pays d'Afrique du Nord, des pays d'Afrique noire, et puis beaucoup aussi de l'Asie, ce qu'on oublie aussi, parce qu'en 14, il y avait beaucoup de Vietnamiens, d'Indochinois, comme on disait, donc qui ont donné leur vie pour défendre la patrie, la France, la métropole. Donc il l'aborde à un moment où quasiment dans la conscience collective, la France décolonise et tout ça, et on oublie un peu ce que ces colonies ont apporté au pays. Et je crois que c'est un peu mettre à son actif de souligner cet apport inestimable.
Alors Tito et Christopher, vous avez vu le spectacle hier. J'ai vu revenir Tito assez enthousiaste du théâtre d'ailleurs. Qui veut commencer à intervenir?
Cette fois-ci, c'est...
Allez, Christopher, fois-ci, c'est toi qui t'y lances.
Moi, je n'avais pas lu l'ouvrage, le premier homme. Et je voulais d'abord vous remercier pour votre interprétation du texte, puisque... d'écouter le texte de Camus, magnifique. Vous êtes tout seul et vous l'incarnez d'une manière avec beaucoup d'émotion. Il n'y a pas beaucoup d'artifice et on est pris dans le texte, dans les propos. J'ai trouvé une pièce très belle. Et donc déjà, je voulais vous remercier pour ce moment assez intense. Et j'imagine que ça doit être pas très facile, mais ça doit être un vrai plaisir d'interpréter Camus sur scène.
Oui, c'est un texte, c'est un texte rare. Parce qu'il y a, comme Camus savait, en l'écrivant d'un premier jet, comme ça, qu'il n'était pas destiné à l'édition et que inévitablement il allait le reprendre. Mm-hmm. Donc il prenait pas de précautions pour l'écriture. Et en ne prenant pas de précautions, il laissait aller sa verve, sa poésie, sa vérité, son émotion. Et on trouve quelque chose de frémissant à certains moments. On trouve une écriture à la fois d'une âpreté, mais d'une sensualité, d'une chaleur, d'une précision, d'une poésie extraordinaire. Donc ce texte a plus d'un titre est unique à cause de sa destinée et au fait que Camus n'y apportait aucune retouche. Simplement, il se laissait aller. Et en se laissant aller, à mon avis, il a donné le meilleur de lui-même. Et je crois que si la mort ne l'avait pas attrapé si tôt, on n'aurait jamais eu le premier homme tel qu'on l'a maintenant. Je pense qu'il aurait à la fois remanié et tout ça, fait autre chose, mais on n'aurait pas eu ces pages. Alors on a perdu Camus très très tôt, mais on a gagné le premier homme qui devient maintenant, vous savez, bon, je le joue depuis quelque temps, et je l'ai dans beaucoup d'endroits, et maintenant ça devient quasiment son texte premier, son texte essentiel, parce que c'est l'autobiographie jetée à nu. Ouais. Comme ça.
C'est magnifique. Hein. Ouais. Je pense que Tito est d'accord avec moi.
Oui, et puis.
Tito.
Moi aussi, je viens d'un pays colonial, donc ça me touche particulièrement. J'entre dans les détails, là. On voit, par exemple, des choses très intéressantes qu'on ne voit pas. Camus avait, comme vous dites, cette qualité de parler des choses dont personne ne parle. Et qui est important des évidences. Vous avez parlé de la participation des troupes coloniales à la défense de la France. Il parle aussi de la vie des petits peuples et du fait que les gens vivaient les uns avec les autres. Mmh. Et par exemple, l'accouchement. Mmh. L'accouchement, elle accouche au milieu d'Européens, d'Arabes, de tout le monde, et tout le monde met la main à la pâte parce que c'est un moment important, et tout le monde est content que l'enfant soit là. C'est-à-dire, sans porteur de jugement, parce qu'évidemment, l'autre, il va diriger un domaine, on imagine bien qu'il est donc, du mauvais côté, hein, la chose, de la force, et qu'il y a les... Mais toujours, il parle, quand il parle de l'arabe, il parle bien. On sent bien que c'est quand même quelqu'un qui est au service des autres et qui n'a pas sa propre volonté, etc. Donc il ne nie pas le système colonial. C'est pas quelqu'un qui est là pour dire, regardez comme tout était bien et tout le monde vivait ensemble. C'est pas ça. Mais les gens vivaient quand même ensemble. Quand même ensemble. Et ça, c'est intéressant de montrer ce côté. Parce que quand on n'a pas vécu là-bas et qu'on n'a pas vu une colonie, on s'imagine que d'un côté, il y a tout le monde qui est très blanc et puis une piétaille de personnes qui vivent une espèce de vie parallèle. C'est pas tout à fait comme ça. Et donc, on revient à cette caractéristique et cette bonheur de Camus, conteur, qui nous raconte une vie, la vie des gens. Et sans manichéisme, mais sans excuser quoi que ce soit non plus. Mais par contre, il y a des mots forts. Hein. Sa mère a dit, je ne veux pas aller là-bas, je veux rester ici chez nous. C'est-à-dire, elle est d'origine espagnole, elle a toujours vécu en Algérie, mais la France, ce n'est pas chez elle. Voilà. Mmh. Et ça, il faut quand même le dire et mettre ça dans la bouche d'un personnage.
Bien sûr, je crois qu'il a dit quelque part à un moment, au bout de combien de générations de présence dans un pays, doit-on considérer que ce pays nous appartient ? Donc ça s'est posé aussi pour cette population européenne qui s'est installée en Algérie au début, au fur et à mesure de la colonisation, mais aussi ça se pose aussi pour des gens en France qui sont immigrés depuis plusieurs générations et qui, de temps en temps, ont l'impression qu'ils ne font pas partie de ce pays. Et il posait cette question-là, et la mère de Camus, avec simplicité, mais tout compte fait avec une grande lucidité, elle dit « je veux rester chez nous ».
Bah, c'est un peu ce que je dirais.
Tout à fait. Et alors, il y a en Algérie traîne, je suis allé le jouer à Alger, et en Algérie traîne une histoire que m'ont raconté uniquement des Algériens, que, au propos de la mère de Camus, comme vous savez, il y avait beaucoup d'attentats dans le quartier où elle habitait, et Camus avait très peur qu'elle soit prise, qu'elle soit blessée, tout ça, et lui a dit viens en France, j'ai acheté une maison dans le sud de la France, c'est presque pareil que l'Algérie, et tu verras, tu y seras très bien. Et elle aurait répondu, non seulement je veux rester chez nous, mais surtout elle aurait dit, non, je ne peux pas aller en France, il n'y a pas assez d'Arabes. Je veux rester ici. Donc c'est des Algériens hein, qui me racontent ça. Je veux dire, il me dit, tu comprends, c'était ici sa vie. C'était pas en France, parce qu'en France, il n'y avait pas autant, on n'était pas aussi nombreux que pour elle, elle pouvait vivre qu'au milieu de nous. Vous voyez, et eux, ils revendiquent cette histoire comme une histoire fondatrice de cette femme et de cette partie de ce petit peuple, enfin ce qu'on appelait les petits blancs, dont je suis moi-même originaire, qui n'ont pas fait fortune là-bas. Qui n'ont exploité, enfin vous voyez, qui n'ont pas, voilà, qui étaient un tout petit peu moins pauvres que les Algériens, un tout petit peu moins pauvres.
Voilà. Alors 2013, ça va être l'année Camus, hein, puisque c'est le centenaire de sa naissance, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Et là, je me tourne vers Monsieur Pérez. Il y aura d'autres choses au Carré Rondelet autour de Camus.
Oui, là,
rapidement,
nous allons, oui, très rapidement, organiser au Carré Rondelet donc un cycle Camus en hommage donc à l'année donc 2013 de la naissance d'Albert Camus. Donc nous reprenons également cette année au mois d'avril le texte donc
l'étranger.
Phare aussi, oui, l'étranger.
Alors, c'est fin mars.
C'est, oui, les dates ont un peu changé.
Ah,
là,
dates
ce sont les nouvelles dates, je vais les donner, hein, comme ça, ce sera
bien
clair.
Dans le micro.
C'est du 11 au 13 avril, et donc le 14 également, puisque c'est un dimanche, et du 18 au 21 avril. Donc c'est, tout se passera en avril. Et donc on le disait tout à l'heure, effectivement, Jean-Paul vient de dire que le premier homme est devenu le texte phare, du coup, hein, d'Albert Camus. Bon, le second, je dirais, c'est l'étranger, puisque c'est le texte, dit-on, le plus lu au monde. Et donc là, il s'agit d'une adaptation que j'avais faite déjà il y a 6-7 ans, qu'on avait présentée au Théâtre Tabar, donc à cette époque, avec le même comédien, Pierre-Jean Peters, et une nouvelle violoniste qui renvoie en écho donc le dialogue, enfin le monologue de Meursault, et elle va en quelque sorte incarner aussi le rôle de Marie Cardona, donc qui est dans le roman et qui est la partie, disons, la plus affective de ce roman au personnage un peu froid qu'est Meursault.
Donc ça, ce sera au mois d'avril. Le premier homme, donc, c'est jusqu'à dimanche, c'est au Carré Rondelet et c'est à 20h30. Je n'ai pas dit de bêtises.
Et le dimanche à 18h.
Et le dimanche à 18h, voilà, je savais que j'oubliais quelque chose. Merci beaucoup à vous de nous avoir accompagnés. Allez-y, donc toute l'équipe est revenue très enthousiaste.
Ah oui.
Très enthousiaste, très très beau spectacle, c'est vraiment un spectacle que l'on conseille. Vendredi Théâtre, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, très bonne semaine théâtrale à vous tous. Thank you.